Cette semaine, dans le balado, épisode spécial du top 10 de l'année, de nos préférences. Alors, bienvenue à Monciné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jess.
Salut, bonjour.
Et on a un invité spécial cette semaine. On a voulu débattre de nos coups de cœur, mm-hmm. de ces sorties 2025 avec un invité spécial.
Vu que nous, on s'en parle à l'année longue, c'était bien d'avoir une troisième voix peut-être, ouais. Soir, si on est dans l'erreur.
Un ménage à trois, ça change le mal de place.
Ben, voilà, exact. Voilà.
Donc, on accueille dans le balado Nico Lacroix, qui est animateur chroniqueur au FM 93 à l'émission du Pont le matin. Un grand cinéphile qui
content
collabore.
Content, vous deux, depuis quelques années. J'en manque un peu plus parce qu'il fait trop d'autres choses. Ouais. Mais
à la base, c'est un amoureux du cinéma.
J'en regarde pas mal quand même, plus que la moyenne.
Oui, c'est ça. Nous, on est un peu hors norme parce qu'on travaille là-dedans. Fait qu'on on les subit. On écoute ceux qu'on veut. On écoute ceux qu'on doit écouter aussi. Mais je vois des fois aussi sur Letterboxd beaucoup de monde qui écoute 10 films par semaine. Puis,
ah ouais, hein?
Non, ça, je suis pas capable. Je suis plus capable,
ouais,
non plus.
C'est beaucoup.
Là, c'est ça. Mais pas tous au cinéma, mais en général, un film par jour ou de quoi. Moi,
d'ailleurs, parenthèse, je sais pas, hein? Si c'est nouveau. Je suis tombé là-dessus hier. Il y a quelqu'un sur YouTube qui a fait une vidéo. Les choix Letterboxd pour chaque année comparativement aux choix des Oscars. Et c'est très intéressant comme exercice. Souvent, les gens de Letterboxd ont fait un meilleur choix. Mais encore là, on parlait avant d'entrer en onde du bénéfice du temps.
Oui.
Et ça aide ça aussi pour les gens de Letterboxd d'avoir le bénéfice du temps pour décider du film de l'année.
Oui, OK. Mais du vote interne que Letterboxd font ou de leur prédiction de l'Oscar?
Non, okay. C'est le film le plus apprécié par année.
Juste en cote. Okay, ouais.
Exact. Et comparativement au choix des Oscars.
Oui, c'est ça.
On donne la part belle aux réalisateurs étrangers.
Ah, ouais, OK.
Kurosawa et Melville profitent beaucoup de Letterboxd.
OK.
Ouais.
Ah.
Ben, c'est sûr que quand même, les Américains demeurent un peu chauvins quand même.
Je sais pas.
Ben, il y a ça, puis Letterboxd est quand même une application par des fans de cinéma,
exact,
qui veulent se donner la peine de loguer, d'inscrire les films qu'ils ont vus, de mettre une cote, un commentaire, quoi que ce soit. Finalement, dans l'Académie qui vote aux Oscars, on ne sait pas vraiment c'est qui vote, puis on se dit qu'il y a. Quand il y a 10 films en compétition, il écoute peut-être pas les 10.
Même Denis Villeneuve en profite deux fois.
Oh.
Ah, ben tant mieux. Ouais.
Donc, ben oui.
Alors... Comment procède-t-on aujourd'hui pour
ce top 10? Ben, tu sais, on va vraiment avec nos coups de cœur. Je pense que les 10 films.
Ben, déjà, on
n'a
pas la prétention de dire c'est quoi le meilleur film de l'année.
Effectivement.
C'est des choix personnels.
Puis moi, je pense, à part, je pense, le numéro 1 qui se détache des autres, je pense que les autres pourraient être interchangeables dans la liste.
Ouais, OK.
Fait qu'on pourrait peut-être juste lancer. Allons-y.
Ouais, en tour de table de position 10, 9, 8, 7.
Ouais, c'est ça.
S'ils se retrouvent plus haut, on n'est pas obligé de tout de suite. Spoiler, il est où, mais on peut dire, ah, moi, il va être un peu plus haut.
Ouais.
Sans, on ne reparlera pas des synopsis puis tout, là, ça sera.
Juste donner notre appréciation.
Ouais, pourquoi ça nous a peut-être autant marqué. Ouais. Sinon, c'était une belle année, vous pensez à la rétrospective 2024 pour vous en tant que cinéphile.
Oui, parce que.
Pause Marvel, ça te fait du bien, ça?
Oh, ça fait oui. Pause Star Wars, pause Disney en général, ça fait du bien. Mais même s'ils ont eu des gros succès cette année. Il y a eu... Moi, je suis un fan un peu plus de fantastique et d'horreur. C'est une très belle année 2024.
Mm-hmm.
Là. J'ai pas eu de misère. J'aurais pu faire un top 10 juste de films de ce genre-là.
Ouais.
Mais j'en ai quand même inclus plusieurs dans mon classement.
Ben, je te rejoins. Moi aussi, étant un grand fan de ce genre-là. Je pense qu'on était bien servi. Puis je pense que certains des gros blockbusters, des gros films de studios américains... ont réussi.
Okay.
Non, mais je pense qu'il y en a certains qui ont livré leur mandat dans des films de qualité. C'est sûr qu'il y en a toujours des échecs, là, quand même.
Notons que je n'ai pas vu Nosferatu, qui est probablement le film le plus attendu de l'année. Là,
qu'est-ce que tu faisais à
dans
Noël?
Dans ce genre-là. Maudit fatigant qui fait Noël.
T'as la messe de minuit à la place.
Mais que j'ai bien hâte de voir, parce que j'aime beaucoup Robert Eggers.
Mais moi, je trouve qu'il y a eu de belles surprises. Je pense que c'est toujours ça aussi, le plaisir d'aller au cinéma, de découvrir de nouvelles choses. Puis dans ma liste à moi, il y a beaucoup de découverte de films auxquels je ne m'attendais pas nécessairement, mm-hmm. qui se retrouvent là.
C'est ce que j'aime beaucoup finalement. C'est pas nécessairement les films que j'attends le plus qui me surprennent. C'est ceux que je me donne l'occasion d'aller voir ou que ben, professionnellement ça aide, mais c'est les bienfaits des chroniques que tu fais ou du podcast de dire hey, j'ai pris ce guts-là d'aller voir ce film-là parce que soit il y a une personne que j'aime ou juste la bande-annonce m'a accroché.
Exact.
Puis finalement, t'es plus généralement servi que quand tu as trop d'attentes sur un film, une suite.
Pour revenir à Nosferatu, c'est ce qui me fait peur. Parce que les attentes sont très élevées, mais ça reste une histoire qu'on a vue 40 millions de fois. Fait que j'essaie de tempérer, mais c'est un gros problème, les attentes aussi.
Oui.
Alors, partons le bal. Je vais me lancer en premier. Avec, je vais me mettre en 10e position, mais encore là, entre guillemets. Moi, je vais me lancer avec Anora, le gagnant de la Palme d'Or à Cannes. Je suis pas friand habituellement des gagnants de Palme d'Or de Cannes. Ouais. Ce n'est pas mon genre trop, mais Anora, j'ai aimé ce clin d'œil à l'univers des frères Coen, à cet humour-là décalé qui... Je pense que vous avez écho justement à Fargo par moment, dans ces deux voyous-là très ineptes. Et surtout pour la prestation de Mickey Madison, la comédienne Adam qui est à couper le souffle. Une révélation, elle est incroyable. Et ça, en plus, je n'avais jamais vu aucun des autres films de Sean Baker. Fait que c'était une découverte pour moi.
Uh-huh.
Je sais que pour plusieurs, c'est peut-être pas son meilleur ou plus représentatif. C'est ça de sa filmographie. Mais moi, j'ai adoré exactement mon genre d'humour. Puis genre de film que, malgré son 2 heures et quelques, ça passe super vite. Et tu te demandes juste, mais où va aller cette intrigue-là? Comment ça va se finir?
Est-ce qu'il y a un peu l'effet de l'avoir vu au TIFF, d'avoir fait le tapis rouge et tout?
Ça aurait pu tout à fait. Mais non, c'est vraiment... J'ai accroché. Puis c'est pourquoi j'avais au cinéma. C'est d'être surpris, d'être émerveillé, puis de tomber en amour avec des personnages. Ouais.
Mais moi, il a pas fait la cote, mais je salue, là, il est dans les très près. Là, j'y vais dans le sens horaire, fait que je prends la balle.
Excellent.
Moi, en 10e, c'est un cinéaste qui, au Québec, nous a offert 3 films cette année.
Oh.
Et disons, c'est mon préféré des 3, la comédie Yannick de Quentin Dupieux, sur le gars qui critique une pièce de théâtre puis il se met à prendre le monde en otage. J'avais trouvé ça extrêmement drôle. Peut-être la fin aurait pu être un petit peu plus éclatée encore, mais me souviens d'avoir un excellent moment de cinéma. Et ça faisait, on mentionnait avant, partie d'entrée de jeu, c'est un film de 2023 en France, mais qui était arrivé comme le 10 janvier ou quelque chose comme ça. Puis Quentin fait souvent des films de 1h15, 1h20, des petits trucs très brefs, absurdes, un peu dans leur setup.
À l'inverse de la tendance.
Ouais, ouais.
Pour la durée, en tout cas.
Oui, c'est ça, exactement. Tu peux écouter 2 Dupieux pendant que quelqu'un écoute...
Un d'une.
Oui, exactement. Fait que voilà. Toi, Nico, en 10e
Numéro
place.
10, c'est un film qui ne sera pas sur aucune de vos listes. je pense... Il est passé peut-être en coup de vent en salle. C'est un film indien qui s'appelle Kill.
Oui.
Qui est un espèce de film d'action déjanté. C'est un peu Bullet Train, c'est un peu The Raid. C'est excessivement violent, mais vraiment bien chorégraphié et tourné. C'est un rare film. Le titre du film arrive au milieu.
Oui.
Du film. Puis ça a été une. Tu parlais de surprise, de film auquel tu t'attends à rien, puis qui te surprennent bien. J'ai eu ben du fun avec Kill, alors ce sera mon numéro 10.
Pour vrai, il a été dans mon top pendant longtemps, okay. Puis là, à la fin, j'ai tassé un peu. Peut-être que si je l'avais revu récemment, j'ai un coup de cœur, mais oui, moi aussi, c'est vraiment jouissif, ce film-là.
Exact, c'est le bon
c'est
mot.
C'est du pétage de gueule, là, oui.
Je vais y aller avec 9e, Le Comte de Monte-Cristo. Adaptation très classique du roman de Dumas. J'adore ce classicisme-là. Le cinéma historique français, quand c'est bien fait, j'adore. Pierre Niney, incroyable. En fait, tout le casting du film, c'est beau. 3 heures de temps, mais qui passe en un coup de vent. Donc, toute la force du scénario, de condenser, d'adapter cette brique-là de 1000 pages et plus. Oui, moi, j'ai bien apprécié.
T'avais, l'an passé aussi, il me semble, t'avais aimé les
Trois Mousquetaires, qui étaient par les scénaristes qui ont là réalisé, passé derrière la caméra. Fait que moi, il faut croire, j'ai un homme romantique en moi.
Eh bien, j'ai aussi Monte-Cristo, mais plus haut. Okay. J'y reviendrai plus tard. En 9e, moi, c'est The Outrun. Avec Saoirse Ronan, je m'entrais d'entrée de jeu. C'est un film qu'on a vu ensemble, puis moi, ça m'a vraiment percuté sur une fille qui veut essayer d'arrêter de boire d'alcool, d'être alcoolique. Elle veut régler ce problème-là. Elle s'exile comme dans une petite cabane au nord de l'Irlande à observer la biologie marine et ornithologique et tout. Fait que, je sais pas, dans sa mise en scène, le jeu de Saoirse, ça m'a vraiment happé. J'ai beaucoup aimé ce film-là, que j'avais recommandé à ma sœur, qui a aussi également vraiment apprécié. Fait que, c'est dans nos gènes, peut-être. Fait que ça fait partie des films, je pense, c'est plus personnel. Là. Je pense que personne dit que c'est pas bon, mais ça a peut-être plus moins frappé les gens autant, ouais. C'est ça que moi. Mais oui, même au cinéma, ça, je sais même pas si ça a joué 2 semaines ces écrans au Québec. Là.
C'est un documentaire, moi, qui est en 9e. Qui s'appelle Super Oblique Man, qui est le film sur Christopher Reeve, qui a incarné Superman, le premier de l'ère moderne, disons-le. J'ai appris beaucoup de choses dans ce documentaire-là sur la vie après l'accident. Puis c'est une des choses que j'ai appréciées du documentaire, c'est qu'on perd pas de temps, on passe... Ils savent que tout le monde attend ça, donc on commence pratiquement avec l'accident de cheval qui a paralysé Christopher Reeve. Et on voit beaucoup de lui et de sa famille après. J'ai trouvé ça excessivement, pas juste touchant, ça l'est beaucoup. C'est beau et aussi c'est confrontant. Étant quelqu'un qui s'est souvent demandé... Est-ce que je préférerais mourir que d'être dans cette situation-là?
Ouais.
Ben, ça te confronte à tout ça.
Ouais.
Il est rendu maintenant en numérique, donc si vous voulez le voir, c'est à la maison.
Ouais, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir, mais t'avais vraiment voulu.
Ah, moi, c'est quelque chose que je voulais voir. Juste en voyant la bande-annonce, j'avais les larmes aux yeux. Fait que c'est quelque chose que je veux absolument voir. Ouais, quel récit touchant. Et quelle tragédie, parce que vous vous souvenez aussi que la femme de Christopher Reeve est décédée pas longtemps après lui, d'un cancer du sein. Et malheureusement, c'est ce qui a fait sombrer Robin Williams, qui est retourné à l'alcool, aux drogues, parce qu'il était ça pendant plusieurs années.
Il était assez présent, d'ailleurs.
Il était parrain d'un des enfants de Christopher Reeve. C'était son meilleur ami. Donc, ouais, c'est vraiment...
Mais vois-tu,
quelle tragédie.
Puisque tu en parles, je considérais ça comme un spoiler, normalement, mais puisque tu en parles, pendant tout le... Parce qu'il y a beaucoup d'entrevues avec tous les membres de la famille, à peu près, mais on voyait jamais sa femme. Puis je me demandais pourquoi, mais moi, j'ignorais qu'elle était décédée pas longtemps après. Donc, elle n'a juste pas eu le temps de le faire, le documentaire, mais on a des images d'archives d'elle aussi. Alors, donc, Super Oblique Man, The Christopher Reeve Story, je pense que ça s'appelle.
Oui, je pense qu'il est à voir sur Crave, si ma mémoire est bonne. Oui, ouais, c'est ça. Hein. Donc, huitième. Moi, j'allais avec American Fiction. Le film qui était sorti en début d'année ici au Québec, mais évidemment qui était sorti en décembre, je pense, aux États-Unis en temps pour se qualifier pour les Oscars. D'ailleurs, qui avait gagné le scénario d'adaptation.
Ouais.
Écoute, comédie-drame très cynique sur le monde de la littérature, sur le monde de la culture aussi, où Jeffrey Wright incarne un auteur afro-américain qui...
Qui écrit pas assez américain.
Ouais, afro-américain. Ouais. Donc, pour faire un vrai pied de nez à l'industrie, il va écrire un roman trash avec un titre très provocateur. Finalement, il va connaître un succès malgré lui. Mais au-delà de ça, c'est très touchant aussi. J'ai trouvé que c'était le scénario était très plausible dans les relations des personnages touchants. Donc, genre de film qui me rejoint. Un bon mélange entre cynisme et humanisme, pourrais-je dire.
En huitième, il y a eu beaucoup de bons films d'animation, je trouve, cette année. Et même dans ceux, ou encore plus dans ceux qui ne sont pas mainstream, pas les gros blockbusters nécessairement. Et un des premiers, qui est aussi techniquement un film de 2023, mais qui est arrivé en 2024 sur nos écrans au Québec, c'est Robot Dreams.
Mm-hmm.
Un film sans dialogue, l'amour, une amitié entre un robot et un chien. J'ai juste vraiment adoré avec la musique qu'il y a dans ce film-là et tout. C'était une bande dessinée, moi, que j'avais lue il y a plusieurs années. Puis que quand j'ai vu que c'était adapté, j'étais vraiment content. Et c'était le film aux Oscars en nomination du meilleur film d'animation. Tout le monde était comme « What the fuck, c'est quoi ce film-là? »
Il y a toujours l'outsider qui est choisi.
Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, c'est une bande dessinée... Je sais plus si c'est américaine, mais c'est une production coprod Mexique-France, le film. Il est arrivé comme un film étranger aux États-Unis, par Neon, au Canada aussi. Fait qu'il était vraiment en retard malgré ses nominations et tout. Je pense qu'ici, il était sorti au mois de mai alors que les Oscars étaient déjà passés.
Ouais.
Fait que c'est plus difficile dans ce temps-là de trouver son public une fois que t'es juste connu pour une nomination que tu gagnes pas. Voilà. Mais Robot Dreams...
Je pensais que t'allais me parler d'un autre robot animé.
Ouais, ça aurait pu.
Wild Robot.
Ouais, et... ça. Oui,
que j'ai pas vu.
Ben, il faisait quand même partie de tous ceux que j'ai aimé, mais Robot Dreams. Peut-être aussi parce que Wild Robot va faire partie d'une trilogie et
C'est
pas encore. C'est comme Lord of the Rings, on le couronnera quand la trilogie sera finie.
Au 7e, moi aussi, en passant, ça pour.
C'est un 8e?
Ouais.
C'est un 8e,
pardon. 8e, oui.
Ça pourrait être dans n'importe quel ordre, à peu près, là. Hitman. Que j'ai. que j'ai beaucoup aimé. C'était plus... Si ça n'avait pas été basé sur une histoire vraie, je pense qu'il n'aurait pas été dans le top 10.
Okay.
Parce que c'est un peu trop absurde. Évidemment, c'est un film, on comprend que c'est pas la réalité telle quelle, mais le cœur de l'histoire, qui est un gars tout à fait ordinaire, un prof, qui il a un sideline d'écoute électronique pour les autorités, puis il est obligé de prendre la place de quelqu'un qui se fait passer pour un tueur à gage. Et,
pour hameçonner
quelqu'un qui devait écouter. Et il se retrouve à le faire, puis à se découvrir là-dedans. Puis ça lui permet de devenir quelqu'un, ben, d'atteindre un peu son plein potentiel. C'est très, très bon. C'est très sympathique. C'est très sexy. Tu sais, t'as un peu de tout. C'est ce que j'ai aimé du film. C'est drôle. C'est intriguant, c'est différent et c'est sexy aussi.
Et c'est Richard Linklater, fait que c'est un bon
exact, un bon réalisateur,
de personnage, d'histoire d'amour et tout. Là,
Et on retrouve, là j'oublie son nom, faire exprès, mais le comédien qui est la nouvelle coqueluche d'Hollywood.
Glenn Powell.
Glenn Powell, ouais, c'est ça, de Top Gun et de Twisters. Ouais. Et, fait que, ouais. Oui, très bon choix aussi. Moi, je vais donc 7e, je vais aller avec Civil War. Film d'Alex Garland qui était sorti au printemps, une histoire dystopique sur un... Ouais, c'est ça. Fait, ouais, on qui s'en va peut-être vers là. Donc, une Amérique des États-Unis très fractionnée en différents camps qui vont s'affronter alors que le président est déchu. Alors, on va suivre des journalistes qui tentent d'aller l'interviewer à la Maison-Blanche. Donc, une espèce de road trip, mais sur fond de guerre civile. J'ai apprécié vraiment. Écoute, je trouvais... On a vu beaucoup de films où il y a des fusillades, des scènes comme ça, mais jamais avec l'utilisation d'un son aussi réaliste. On avait l'impression d'assister, d'être au cœur de ces fusillades-là. Dessus, ouais, c'était vraiment impressionnant. Et les comédiens, encore là, Kirsten Dunst, qui signe une grande performance. Et surtout, la jeune Kaylee Spaney, qui est rendue une de mes actrices préférées, qui était dans le dernier Alien, Romulus aussi. Je trouve qu'elle est charismatique, elle est bonne. Donc, tous ces ingrédients-là fait que j'ai embarqué.
Vois-tu, ça, c'est un cas d'attente qui m'ennuie.
OK.
J'ai attendu beaucoup. Je l'ai vu très tard, Civil War, puis j'avais entendu tout le buzz. Ouais. J'avais vraiment hâte. J'aime beaucoup Alex Garland, le réalisateur. Puis finalement, j'ai trouvé ça...
Comme tout ça pour ça, un peu.
Bien, mais c'est ça. J'aurais... peut-être le problème perçu chez certaines personnes, c'est que l'absence de prise de position. Il fait vraiment ça du côté journalistique, donc... Ouais. Objectif. Je sais pas, c'était pas tout à fait à la hauteur de mes attentes, mais ça reste, c'est un bon film, absolument.
Puis il finit raide pas mal, le film. Là, qui était...
Une fin un peu anticlimatique aussi. Ouais.
Mais ça, c'est sûr que c'était des films marquants de l'année, je pense, à sa façon d'être polarisant. Puis ce qu'on avait vu aussi dans le milieu du cinéma, c'est que c'était pas juste un film de jeunes, parce que l'espèce de presque réalité de ce film-là, justement, de pousser avec l'extrême
droite. Surtout qu'il est arrivé avant les élections, donc voilà, on se disait, on s'en va se faire.
Fait que finalement, le film a eu une bonne... il a fait écho chez une clientèle plus âgée aussi, qui normalement va pas voir ce cinéma d'action-là, mais qui disait, non, il y a comme un fond de réalisme, tu sais, on a peur, là. Puis là, c'est encore pire avec le... qui menace d'annexer le Canada aux États-Unis et tout, là. Fait que le 51e étage, plutôt.
Avec Wayne Gretzky comme gouverneur.
Ben, déjà, ça serait le point.
Ce serait pas pire que ce qu'on a là.
Ben, je sais pas, es-tu mieux que coach?
Yes!
En 7e, moi, j'ai mis Le Comte de Monte-Cristo, c'est là qui se retrouve. Mais oui, cette grande aventure épique, là. Mais rien de plus à dire que ce que tu as mentionné, Patrick.
Moi, en 7, j'ai un film qui est sorti au mois de janvier. Il est en 7 parce que j'admire la réalisation, je dirais presque jamais vue de ce film-là, mais c'est pas une expérience que je veux revivre. C'est pas une expérience agréable. Puis c'est une expérience qui est difficile à recommander à un grand public. Mais je pense que si vous êtes le moindrement ouvert, il faut voir La Zone d'intérêt. Et il faut idéalement aller trop tard pour le voir au cinéma, mais l'élément sonore de ce film-là est crucial comme dans aucun autre film, à peu près. Pour le bon public, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais.
Entièrement d'accord. Moi, il va être d'ailleurs un peu plus haut sur la liste.
Ouais, moi aussi, on y reviendra.
6e position, moi je vais avec également un film d'animation, mais plus grand public, mais écoute, qui est venu me
Sonic
toucher.
3.
Sonic 3. Là, je vais avec Inside Out 2, ouais. Sans dessus.
Qui a surpris beaucoup de monde.
Ouais.
Tant par la qualité que le succès incroyable.
Ben, puis tu sais, le premier était tellement iconique, c'est toujours casse-gueule de revenir dans cet univers-là, mais ils ont réussi à se renouveler. Introduisant le personnage d'anxiété qui était tellement bien aimé pour avoir une fille qui souffre de troubles d'anxiété. Donc, on s'identifiait complètement à ce qu'elle pouvait vivre. Donc, on le voyait visuellement. Donc, oui, écoute, de faire quelque chose d'aussi abstrait, de montrer des émotions au cinéma, mais de les rendre attachants, avec en plus une sous-histoire sur le hockey, qui est toujours fun pour nous Québécois. fait que non, moi, Inside Out 2, je trouve que c'était le grand retour en force de Pixar et ça faisait du bien.
Ben, tu vois, moi, c'était Robot Dream que j'ai mis dans comme un peu mon animation, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de positifs à ce film-là et surtout d'avoir relevé le défi de ne pas scraper tout ce qu'on avait établi. Clairement qu'ils sont déjà en train de travailler sur un 3, ça c'est certain, là, avec le milliard qu'ils ont fait et tout. En sixième place, moi, un film que j'ai pas vu arriver, justement, on parle de ces petits films-là que il m'a juste épaté du début à la fin. J'ai eu vraiment du fun avec Love Lies Bleeding. Oh. De j'ai même oublié le nom de la cinéaste.
De la cinéaste, oui. C'est pété, ça.
Oui, exactement. C'est cette folie-là, je trouvais que c'était très BD, très comic book, des fois dans les plans, dans le montage, cette espèce de fantasy-là aussi, de type de virer Berserk.
Avec Kristen Stewart, entre autres, et Ed Harris.
Exactement. Ouais. Fait que c'est un peu brut comme film, là. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais moi, j'ai adoré. Ça, c'en est un que je serais dû pour revoir là, quelques mois plus tard maintenant. Là. C'était quoi, au mois d'avril, je pense?
Ouais, je suis au printemps.
C'est ça. Je me souviens, c'est la cinéaste qui a fait Saint-Maud, mais j'ai oublié de noter son nom. Rose Glass, c'est ça, voilà. Nico, toi, en sixième?
Je vais y aller avec un film qui va peut-être être plus haut dans vos listes à vous. Mais je pense qu'il faut, que ce soit dans toutes les listes des meilleurs films. Mais je suis un peu over le phénomène. Je m'excuse d'avance. C'est Dune.
Okay. Okay,
ouais. Deuxième partie. C'est un film que j'ai trouvé magnifique. C'est très somptueux, évidemment. C'est du Denis Villeneuve. Il nous a habitués à une cinématographie impeccable. Mais la résonance émotionnelle est plus là, puis c'est sorti au mois de mars. Il y a des films dans cette liste-là auxquels je pense encore. Je parlais de la zone d'intérêt tantôt. Dune, je suis content de l'avoir vu. Je suis content qu'il l'ait fait. Je suis très fier de lui, mais je suis passé à autre chose, là. J'anticipe pas comme un malade d'une Messiah.
Ouais, puis t'as pas écouté la série là, qui sort.
Non, je n'ai pas regardé la série
mais
sur.
C'est pas fait
sur
par lui. Mais c'est clair qu'au Québec, Dune doit avoir encore plus d'écho que partout parce que c'est Denis Villeneuve. Puis. C'est clair que
c'est impressionnant ce qu'il a réussi là, comme carrière.
Ben, écoute, Céline Dion du cinéma.
C'était le prochain, moi, sur ma liste.
OK.
Fait que tu vois. Fait que oui, je rejoins ce que tu dis esthétiquement. C'était incroyable.
Fait que cinquième pour toi.
C'est ouais, ça, cinquième. Parce que c'est dur de nous montrer des images qu'on n'a jamais vues encore.
Ouais.
Et ça, il a réussi. Encore là, casting incroyable. De synthétiser une histoire quand même complexe aussi. De faire quelque chose de. Que tout le monde peut comprendre. Donc, ouais, Dune Part 2. J'étais content qu'on n'a pas été déçus parce que ça aurait pu être ça aussi.
Vrai.
Fait que j'espère qu'il va conclure ça d'une belle façon, mais connaissant de
J'aime souvent dire que c'est le Star Wars intello.
Ouais.
Mm-hmm. Mais c'est plate parce que l'adaptation arrive après. C'est tout Star Wars qui a piqué des affaires dans Dune, mais physiquement, chronologiquement, il arrive après. Fait qu'on a l'impression d'avoir déjà vu des trucs là-dedans, ce qui est le désavantage, alors que c'est une œuvre bien supérieure.
C'est ça qui était arrivé, parenthèse cinématographique, à Jack Carter, là, qui avait été un gros flop de Disney. Puis c'était comme, c'était le mother of it all. Là. C'est comme, c'est le premier de science-fiction de cette histoire-là.
John Carter
de...
from Mars?
Ouais, c'est ça, exact. Puis là, il faut absolument, avec Taylor Kitsch, puis tout, il faut absolument faire ce film-là, blablabla. Mais finalement, les gens ont vu le film, puis en fait, mais on l'a déjà vu 100 fois, ce film-là. Ouais. Tu sais, on s'en fout qu'il a été écrit avant les autres. Là,
c'est
il
ça.
Il arrive quand même en dernier à ligne d'arrivée.
Ben
fait
oui.
Pour le public, c'est ça. C'est déjà
c'est ce qui expliquait le flop, entre autres. Moi, en cinquième, c'est The Zone of Interest. C'est là que je le place, mais pour les mêmes raisons que toi, c'est super percutant. Puis là, on sort pas des sentiers battus en disant que c'est un grand film, c'est un film marquant pour les années 23-24, là, dépendamment des marchés. Fait que, voilà. Je sais pas, c'est ça, je pense pas que je vais le réécouter. Peut-être dans 10-15 ans, là, si mes enfants veulent le voir, là, ce sera là, mais de mon plein gré, je suis comme, c'est rough, là.
Il y a, pour mon cinquième, il y a quelques films dont j'ai pas compris le désintérêt du public cette année. Okay. Puis celui-là, c'en est un. Parce qu'il est perçu comme un échec. C'est Furiosa. Si on n'avait pas eu Fury Road... En fait, non, si on n'avait pas eu... Ouais, c'est ça, c'est l'autre, c'est d'avance, c'est Road Fury Road. Tout le monde verrait Furiosa comme un chef-d'œuvre.
Ouais.
Malheureusement, il souffre un peu de la comparaison avec le précédent, qui était plus compact, qui était plus...
Action
claire, effectivement. Mais il reste que Furiosa, c'est un film fantastique. Si c'était le dernier film de George Miller, ça fitterait très bien.
On va en reparler plus tard, moi, dans mon cas. C'est ça. Mais je pense que toutes les critiques étaient bonnes sur le film.
Le public est resté. L'autre exemple que j'ai, c'est de Fall Guy, que j'ai pas compris pourquoi ça a pas marché.
Moi aussi, il est pas finalement dans mon top, mais
comédie romantique, agréable, hommage au cinéma, nostalgie en masse.
Et des vedettes qu'on aime, des faces qu'on aime voir, puis tout.
Des ces mystères-là. Tu vois, Mad Max n'est pas dans ma liste top 10, mais dans les mentions, assurément, j'avais beaucoup aimé ça, moi aussi. Je crois que c'était une belle continuité à l'univers de Mad Max. On est rendu au quatrième. Moi, je vais aller avec Saturday Night.
Je te reconnais là.
Ça, c'est sûr que ça vient me rejoindre. Donc, évidemment, un film qui relate les 2 heures avant la mise en onde du premier épisode de Saturday Night Live, dont je suis fan.
Et pour lequel tu avais beaucoup d'attentes.
J'avais beaucoup d'attentes et ils ont été comblés. Réalisé par Jason Reitman, fils d'Ivan Reitman. Écoute, je trouve que c'est un tour de force incroyable parce que c'est quelque chose quand même d'un peu banal, mais par sa réalisation avec des longs plans séquences qui évoquent un peu Birdman.
C'est quasiment one take.
En tout cas, des longs plans séquences où on se promène partout dans les coulisses.
Tout doit être chorégraphié parce qu'il y a du monde qui se croise, c'est le chaos.
C'est un zoo, c'est fou. Là, on verrait plus ça aujourd'hui, une émission de télé qui arrive en onde comme ça où tout le monde...
Pacing de l'émission 2 heures avant. Là.
Et les comédiens sont tous incroyables, sans tomber dans la caricature des Chevy Chase, d'Anna Croyd et tout ça, ces visages-là qu'on connaissait à l'époque, mais je trouve qu'il les évoque bien. Et c'est le jeune Labelle, j'ai oublié son prénom, qui incarne Lorne Michaels, qui était dans le film de Steven Spielberg, Les Fablemans, qui est juste très bon. La musique aussi, avec un rythme très jazzy qui nous propulse dans le chaos, fait que moi, Saturday Night, j'ai adoré chaque seconde et j'étais scotché devant l'écran. Fait que gros coup de cœur pour ce film.
En quatrième place, un film que j'ai l'impression que je suis peut-être le seul au Québec qui l'a vu parce qu'il ne rencontre pas du tout son public. Il est sorti un peu, c'est une gosse. Lui qui représente le Danemark au meilleur film international, c'est The Girl with the Needle, la jeune femme à l'aiguille. Un film un petit peu dans un certain esprit de Zone of Interest, c'est-à-dire très brut, très pas du tout dans la même mise en scène, mais tu sais, très violent. Là, on est après la Première Guerre mondiale au Danemark. Tout va pas bien. L'avortement est illégal. Les gens essaient de se débarrasser de leurs enfants, mais dans le fond, il y a une dame qui les reprend pour dire « Moi, je vais trouver des familles... » Tout ça est illégal, mais des familles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Fait que comme ça, je vais donner votre bébé. Tout ça dans un ton dans du noir et blanc, rude. Tout le monde mange des patates. Puis bouilli, son ex-mari revient de la guerre, il est amputé, il est rendu à faire des freak shows dans les cirques. Ça,
Avec le lutin, là, c'est un...
oui, exactement.
Un one-two punch.
En fait, ça peut être ça, ton lutin, il a fait une joke. Puis... Non, OK, tu veux dire le film, le lutin, moi, je te dirais ceux qui montrent des lutins qui font des mauvais coups. Il y a parti Girl
with the Needle. Les enfants écoutent un bon film.
Oui, c'est ça. C'est pas l'étrangère de Monsieur Jackson, non, c'est... Plus intense. Fait que ça m'a vraiment, vraiment percuté. Je trouve que c'est un très beau cinéma et tout, mais tu sors pas avec le sourire, ça, c'est certain. C'est plus des espèces de films traumatisants, là, je trouve. Là,
c'est un film d'horreur, parce que c'est horrifique ce qu'on voit.
C'est ça. Mais c'est pas des jumpscares.
C'est de l'horreur humaine.
Exactement. Fait que voilà, ça fait beaucoup référence à de l'avortement puis de la mortalité infantile, tout ça. Fait que voilà, mais il est encore à l'affiche dans certains cinémas. Il est encore sur la courte liste. Il représente le Danemark pour le score du meilleur film international. Fait qu'on verra bien, mais c'est pas le chouchou du public.
Mais on est numéro 4, hein, ouais, c'est numéro ça? 4. Mes quatre autres choix sont dans le fantastique. Il y en a une bonne partie qui font partie du cinéma féministe. Mais encore là, c'est une étiquette que vous l'attrapez le message ou vous ne l'attrapez pas. Coucou.
Okay, oui,
c'est un film que je suis pas capable de m'enlever de l'esprit depuis que je l'ai vu. C'est tellement pété, même pour de l'horreur, c'est un concept tellement pété que j'ai adoré ça. Puis, comme je vous dis, un film qui reste avec moi aussi longtemps, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ça m'en va d'être Hunter Schafer, entre autres, et Dan Stevens, qui a une grosse année. Dan Stevens, il était dans Abigail, il était dans Kong.
Oui, il y a une carrière internationale. Il joue parce qu'il est fluent en Allemagne, en allemand, fait qu'il joue partout.
Et il est souvent très amusant.
C'est un Britannique à la base. Fait qu'il...
Ah, je ne sais pas
si
ça, je
savais pas. Dans les Downton Abbey et tout. Fait qu'il est capable de jouer britannique comme les Britanniques. Il est capable de faker l'accent américain, puis il parle allemand.
Puis il fait du drame, puis de la comédie, puis de l'horreur. C'est une... je peux... quasiment pas vous expliquer l'intrigue tellement que c'est pété. Mais c'est une jeune fille qui est forcée de travailler dans une espèce de resort dans les Alpes, je pense.
Du côté allemand. Là.
Ouais, exact.
Suisse allemande, je pense.
Puis, il se passe des affaires très étranges.
Surtout la nuit.
Mais vous n'avez aucune idée à quel point c'est étrange.
Ah, écoute, je l'ai vu récemment. Je l'avais manqué au cinéma. Et va voir, tu m'expliques, parce que tout le long, c'était comme « What the fuck? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? »
On s'en reparlera.
Je pense que j'ai trouvé ça... Je pense qu'il me fallait un peu plus de clés pour contexte, apprécier, je pense. Ça. Mais je dois saluer l'originalité, l'audace et ces genres de films, effectivement.
C'est une espèce de fable sur le... Je dirais la conception forcée, une autre version peut-être de La Servante écarlate, mais vraiment très, très différente.
Puis, ce qui est cool du film aussi, c'est que l'espèce de créature qui pourchasse, qui est très énigmatique, ben c'est aussi une nouvelle création. T'sais. Souvent, exact. Dans les films d'horreur, on parlait de Nosferatu, on revoit, on va
c'est de la franchise,
on voit des zombies,
comme...
des choses. Ouais, puis là, c'est comme
totalement unique.
Quelque chose de nouveau, une espèce de créature mi-humaine, mi-on sait pas trop et tout. Fait que belle création de ce côté-là.
Alors, moi, pour le prochain choix, je vais rester dans le très concret.
Top 3, là.
Pour moi, je vais avec Sing Sing.
OK.
Très bon film sur la prison, évidemment, Sing Sing. Prison fédérale américaine où les pires criminels sont incarcérés. Et au tournant des années 2000, il y a un détenu qui avait fondé un programme de théâtre. Donc, question pour eux de s'occuper l'esprit, le temps, de former une fraternité. Et ce qui est plus touchant, c'est que la plupart des figurants ou des seconds rôles sont des anciens du détenu qui sont sortis de prison aujourd'hui, qui rejouent leur rôle. Donc, c'est un film très intimiste, tourné, je pense, en 16 mm en plus. Fait qu'on voit le grain de la pellicule, quelque chose de très cru derrière ça, mais très touchant, très humain. Fait que ça m'a bouleversé, Sing Sing.
Mais tu vois, moi, il m'a énormément touché. Non, il m'a moins touché. J'ai vu beaucoup les aptitudes techniques et tout. Puis techniquement, dans mon rating, dans mes notes, il était plus élevé, mais je ne l'ai pas laissé dans mon top 10 parce que j'ai.
Ton cœur est mort.
Je le trouvais cérébral. Mais c'est juste moi personnellement parce que c'est ça, je reconnais. Il coche tout sur une liste. Mais au final, un peu comme tu disais, Nicolas, que. Je l'ai un peu oublié. Comme peut-être parce que c'était sorti
alors,
pas au mois
c'était
de mai.
Viscéral pour Patrick.
Ouais,
toi,
puis là,
c'est vrai
que l'effet
plus...
du temps, il s'était frité. Puis là, je le regardais. Puis comme, j'avais mis genre 4,5. J'avais vraiment aimé ça, mais je le sais pas. On dirait que j'irais pas. Je le redéfends. J'aurais de la misère à leur. Ben, pas à leur défendre parce que je sais que les qualités sont là, mais être comme. Ouais. Peut-être que si je l'avais revu, ça aurait recrinqué ma jauge à amour pour Sing Sing, mais c'était dans les très bons films. Mais. C'est sûr que je suis plus trop sûr. C'était comme un film de 2023, mais il va-tu être aux Oscars cette année ou il était justement l'autre année d'avant?
Non, il n'était pas l'année passée. C'était...
Okay.
Ouais.
Mais là,
il semble,
un peu
je l'ai vu dans des listes.
Il est-tu au Golden Globe?
Non, je pense
Coleman,
que...
Domingo Coleman, il est comme boudé un peu.
Je pense que lui a dû être en nomination, mais je m'attendais à ce qu'il soit peut-être plus présent en termes de prix. Là, mais...
Ouais, on en a parlé bien, c'est ça.
Mais je pense qu'un peu à l'image du film, il est sorti une drôle de période en plein milieu de l'été pour un film de ce genre-là.
Il doit être écrit sur Letterboxd, c'est 2023, mais ça doit être à cause d'un festival ou quelque chose comme ça qu'il a joué. Ben moi, numéro 3, c'est Furiosa, Mad Max Saga. Que, oui, c'est ça. Vraiment eu du bon temps. Puis c'est un que j'ai manqué de temps pour retourner le voir, mais j'aurais aimé ça, même le voir deux fois au cinéma. Mais souvent, là, il y en a tellement d'autres et tout que là, je retourne pas toujours les voir. Toi, tu l'avais vu
J'ai juste vu une fois.
Ok, je pense, même avec un autre titre. Mais ouais. Enfin, on dirait que refaire l'exercice du top 10 me donne envie de. Okay, il y en a 3-4 dans mon
tu
top, surtout ceux que j'ai vus il y a plus de 3 mois, mettons. J'étais comme, ok, il faudrait que j'y réécoute.
Très bon.
C'est numéro 3, Nico.
Je vais y
ton
aller.
Film féministe, là.
C'en est un.
Mais je sais, t'as
c'en
dit
est un de deux, oui. The Substance, je le mets juste au numéro 3. C'est un film dont tout le monde va parler cette année ou dont tout le monde parle cette année.
D'après moi, il reste à être nommé par Patrick et moi aussi.
Oui, oui, j'ai imaginé.
La
oui,
fin
c'est
de l'émission.
Pour ça que je vous dis que je le mets juste 3. J'imagine qu'il va être 2 ou 1 pour vous. La raison pour laquelle il est 3, il y a entre autres les 10 dernières minutes qui sont absolument de trop. J'aurais excisé les 10 dernières minutes.
OK, même si ça devient coco, banane et
trop,
tout.
Trop, c'est okay, ça. Ouais. Je trouve que ça dilue un peu ce qui est venu avant.
Dans trop de liquide,
oui,
justement.
Exactement. Puis j'ai pas de misère avec le grand guignolesque d'habitude, mais là, je trouvais que ça fitait plus ou moins. Une phrase, pas une phrase, mais un aspect intéressant que je trouve qui est pas souligné, puis c'est peut-être parce que moi, j'ai pas d'enfant, mais moi, je l'ai vu aussi comme une fable sur la maternité. T'as une fille qui sort de toi, qui est toi en principe en version améliorée, mais qui se laisse traîner, puis qui fout un peu le bordel dans ta vie et tout ça. Puis personne ne semble
c'est
aborder
très bon,
cet aspect-là. Fait que je me suis demandé si Madame Fargeant, c'est
ouais,
ça?
Ouais. Coralie,
détestait sa fille ou avait pas une fille ou quoi
je
que ce soit.
Je sais pas, c'est
mais,
parental.
C'est un accomplissement fantastique. Beaucoup d'hommages à Kubrick et à autres. Je suis un grand fan de Cronenberg, fait que l'aspect horreur...
Body
horror vient me chercher. Mais je pense que j'ai préféré les deux autres films. Okay. Qui
j'ai hâte de découvrir lesquels.
Mais il fait partie des films... pas nécessairement polarisant, mais qu'on a parlé parce que ça a joué à...
C'est
il
dans les
Cannes. TIFF, il est sorti en septembre. Ouais. Là, ça a été
c'est dans la culture pop de l'année 2024 internationalement. Puis ça va remettre Demi Moore sur la map.
Oui, écoute. Ben moi, je le mets deuxième, effectivement. Depuis le buzz à Cannes, j'avais hâte de le voir. J'ai pas été déçu. Écoute, un film rock'n'roll qui décoiffe, qui... Faut être fait fort par moment, mais en même temps, il y a un humour noir présent que j'ai adoré, une critique sociale très très importante, je pense, très d'actualité, évidemment, avec le vieillissement de la femme à l'écran. Et c'est encore plus touchant parce que Demi Moore a vécu ça, en quelque sorte,
exact.
Aussi. Elle est passée de l'actrice la mieux payée à Hollywood, finalement, à une carrière quasiment extincte. Donc, un comeback pour elle. Puis en même temps, ça n'a jamais été une très grande comédienne, mais j'ai trouvé là-dedans, elle est vraiment fascinante à voir, appuyée par Margaret Qualley, qui est une des bonnes actrices montantes aussi. Mm-hmm.
Les deux très courageuses dans le rôle.
Très audacieux, puis il y a beaucoup de nudité, faut dire. Donc, Demi Moore, quand même, début soixantaine ou fin cinquantaine, je ne sais pas. Bref,
le seul aspect négatif... Outre moi, les 10 dernières minutes que je trouvais trop excessives, c'est que tu mangeras plus de crevettes. Quand tu vas avoir le film. Parce que c'est un peu dégueulasse.
Ouais, on sait de qui il se moque un peu, ce personnage.
Oui, il y a beaucoup de petits clins d'œil à Hollywood.
Oui.
Mais moi aussi, c'est mon numéro 2 de Substance, un film qui est dans ta face. Puis je relisais ma critique à l'époque pour me remettre dans le bain. Puis c'est ça, c'est comme. Faudrait pas que tout le cinéma soit comme ça. C'est très intense et c'est agressif. Mais mon point négatif, c'est que je trouve que 2h20, c'est un petit peu long pour ce film-là. Comme d'habitude, je sais pas qu'est-ce que j'aurais coupé nécessairement. Toi, c'est plus la fin. D'autres, peut-être, j'aimais la fin, mais c'est peut-être de couper une petite minute à ça et à là. Puis on dirait qu'à 2h, il aurait été
c'est ça. On avait compris.
C'est ça.
Mais deux, quand même.
Oui, voilà.
Fait qu'il est tout dans notre top 3, donc ça vous dit quelque chose déjà là. Mon numéro 2 à moi sera Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.
Puis... Mais en fait, c'est plus parce que je me dis, c'était pas l'autre année d'avant, ça?
Ouais, il est sorti en 2023, mais on va te pardonner. Ouais. Oui, 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 c'est
ah,
correct.
Oui, ah,
oui, parce que c'était octobre 2023.
Ah, excusez-moi. Mais c'est pas cher. J'ai triché sans le vouloir.
Mais non, c'est plus parce que je me suis en train de me dire, hey, c'est moi qui serais zappé. Non. Non,
mais c'est celui que j'ai vu hier. C'est ça que j'ai vu hier.
Mais ce qui est mêlant, c'est parce qu'il était au Gala Québec Cinéma, là, puis il a gagné plein de choses.
Exact.
Sauf qu'eux, ils n'ont pas la même période.
Septembre à septembre.
Alors, voyez-le quand même. C'est tout à fait charmant et beaucoup plus drôle que ce que je pensais.
Ouais.
J'ai adoré ça.
Puis c'est un film que je pense à l'époque, tu sais, il a fait quoi, 300 000, 200 000, ça avait l'air... C'est difficile de le rendre vendeur, je pense.
Ouais.
Puis c'est l'inverse, c'est l'effet du temps, le fait qu'il ait gagné des prix, là, probablement qu'il est sur Crave. Je pense que plein de monde vont se donner la peine de faire « OK, ça avait l'air... » aride, lourd, puis tout, puis c'est comme, non, c'est juste
assez
cucu, absurde.
C'est
pas
c'est drôle,
mais...
c'est comme je vous dis, c'est charmant. C'est un coming of age, mais chez une vampire qui veut pas tuer.
Oui.
C'est ça, une vampire végétarienne, vampire végane, tu sais, puis ne serait-ce que la scène aussi où ils mettent la musique, là, puis il y a le jeu qui
ça,
danse, qui se retourne, les regards, cette chorégraphie-là et tout.
C'est une des scènes marquantes de 2020. Mm-hmm.
Ouais. Ah ben, marqué pendant 2 ans.
Ouais, ben ouais, l'année dernière était dans nos top 10 et moi c'est mon film québécois préféré de l'année. J'avais adoré ça aussi.
Je suis pas à côté de la traque, sauf
ça.
Pour la date.
Ouais.
Ça veut dire que si théoriquement là, on aurait Substance numéro 2 peut-être partout, là, les 3.
Oui.
Moi, mon numéro 1, ben, il est déjà sorti par toi, Nico. Moi, je vais avec The Zone of Interest. Grand amateur de films de Deuxième Guerre mondiale sur la Shoah. Il y en a tellement eu, donc d'arriver avec une proposition originale, c'est dur.
Différente.
Ouais, différente. Fait que j'ai été juste complètement happé. Tu l'as dit, le son est tellement important. La façon qu'on utilise le son, c'est pour ça que le cinéma existe. Et de montrer la beauté de cette vie familiale-là, parce que ça traite du directeur du camp d'Auschwitz, avec sa famille qui vit dans un milieu bucolique, sachant tout l'horreur qu'il y a juste à côté, mais qui n'est jamais montré, mais suggéré. Il y a un décalage qui est juste dur pour le cerveau à comprendre. Et autant Schindler's List montrait cette haine-là que pouvait avoir Emmen Goethe, qui était directeur du camp pour les Juifs. Ici, c'est juste la froideur bureaucratique.
C'est ça. Comment on s'habitue à tout.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment à voir. Si vous aimez les films sur le sujet, un chef-d'œuvre.
Donc, vous avez le même numéro 1?
Non, je l'ai déjà nommé. Moi, peut-être que je vais être très normie, mais bon, numéro 1, c'est Dune Part 2.
Okay.
Mais il y a des raisons à cela. Premièrement, j'avais des attentes pour le film qui ont été comblées, mais il est sorti à une période très particulière pour moi. C'est que ma blonde venait d'accoucher, mon enfant avait 3 semaines, puis je suis venu au cinéma le vendredi matin qui est sorti. À 10h du matin, il y avait une représentation en anglais, Atmos, tout. Fait que le fait... J'étais comme un peu sur un nuage, venais voir le film, la musique me rentrait dedans de Hans Zimmer, tout était encore là. Je pense que sur le coup, j'avais peut-être préféré même le premier, mais dans l'ensemble de ce qu'est le diptyque, il y a plus d'action dans le deuxième. Puis là, je l'ai réécouté il y a une semaine pour voir si ça tenait encore la route. Là, j'ai pas le temps de tout réécouter, mais celle-là, oui. Puis, ouais, c'est ça. Moi, il y a l'effet très personnel de comme le moment où il est sorti, le fait d'aller le voir. Souvent, on voit des films... tu sais, juste ensemble, Patrick, toi puis moi, des fois très tôt le matin ou quoi que ce soit, ou des fois des screeners sont tordis, mais là, on dirait que je suis vraiment allé le voir comme un client, comme un cinéphile là, qui prend le temps de quitter le chaos de la maison. Props à ma blonde qui m'a laissé aller voir le film. Puis c'est ça, fait que ça m'a vraiment marqué, puis c'était comme... Ça a comme résumé mon expérience cinéma de l'année un peu, ou disons, ça l'a bien démarré, parce que c'était le 1er mars que c'était sorti. Mm. Fait que c'est pour ça que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué cette année, ce film-là.
Il reste encore une fois qu'il est dans nos 3 listes. Donc
c'est ça, exact. Ça sort pas de nulle part. Là,
ce qui reste, écoute, vous l'avez même pas mentionné, mais comme je vous disais, tout est interchangeable au niveau des numéros dans ma liste. Je l'ai même pas fait dans l'ordre où je l'avais écrite. Mais des fois, je vais voir au cinéma quelque chose, je m'attends que c'est X, Y, Z. Puis finalement, l'intelligence du propos fait que... Tu sais, un de mes films favoris, c'est All the President's Men.
Mm-hmm. J'ai
jamais vu.
C'est un thriller extraordinaire composé uniquement de conversations. Ben, j'ai vécu la même chose cette année avec Hérétique.
Mm-hmm. Ah, okay.
Qui est un thriller uniquement composé de conversations intelligentes et de débats sur la place de la religion, les croyances, etc., etc. Là aussi, je me préoccupe pas trop de la finale qui vient un peu brouiller le reste du film, mais j'ai trouvé ça... J'étais fasciné par les conversations que les trois acteurs qui sont excellents, dont Hugh Grant,
Dans un contre-emploi efficace.
Dans un contre-emploi tout à fait efficace. Mais ça a commencé peut-être avec The Gentleman... de Guy Ritchie, où il jouait un méchant. Mais bref, j'ai vraiment, vraiment adoré Hérédic.
Ah, ben, un choix très surprenant, mais j'appuie. Oui, parce que ça a été... ouais, ça avait été très surprenant, le film aussi. La première partie, de créer un niveau de tension dans un huis clos comme ça, avec trois personnages qui discutent de religion, là, faut le faire.
Sans acte de violence, rien. Ouais. C'est ça. C'est un bel accomplissement.
Avec les métaphores de Monopoly et tout.
Ben, excellent. Merci pour ce partage-là, Nico. C'est super intéressant.
Merci de l'invitation.
Bon, allons-y un peu avec nos.
J'aimerais juste name-dropper plein de films. Qui ont
faire
failli faire la cote.
Okay.
Il y en a qu'on a nommé, mais Blink Twice.
Ouais,
aussi,
ça
j'avais
une belle
film que c'est comme du 4 étoiles, selon moi. Là, je trouve que c'est, en parlant de films un peu plus féministes ou à saveur, je dirais pas juste féministe, mais plus qu'il faut que les gars arrêtent d'être des crises d'imbéciles.
Ouais.
Et du coup, The Apprentice aussi. Je trouve que le film aurait pu être plus marquant, mais on dirait qu'il a fait peur à ceux qui aimaient Trump, puis les autres voulaient plus entendre parler de Trump. Puis... Mais Sebastian Stan est quand même très, très fort
dans très
ce film-là.
Solide,
c'est
ouais.
ça. J'ai mis Sing Sing, que justement, toi, t'as mis en top. J'ai eu beaucoup de fun, moi, avec The Fall Guy, qu'on a dit. Mm-hmm. Challenger, qui est très singulier,
Zendaya,
qui est très aussi dans la face, pas tout à fait comme,
comme
Substance, mais tu sais, la musique vraiment excitante, puis tout, puis le jeu sexy du tennis, puis de littéralement se renvoyer la balle et tout.
Mm-hmm.
Nosferatu, que moi, je suis le seul des trois qui a vu, peut-être parce que l'épreuve du temps, il est trop frais. C'est l'inverse, il est peut-être trop frais dans ma mémoire, puis je suis comme, ah, mais on dirait que les autres, ils m'ont... J'ai que du positif à dire, mais comme tu t'as mentionné en train de jeu, c'est le fait que c'est comme, ben, l'histoire en même temps, je la connais. T'sais.
C'est
tout
ça.
Tout est beau, tout le monde est bon, tu es dedans, mais
fait
l'histoire
juste visuel,
m'a pas chaviré.
Tu peux te surprendre.
Fait que je te le recommande, vas-y, c'est super bon. Je les tous, mais il est pas dans mon top de l'année, tu sais, mais il a rien volé non plus, tu sais. Au Québec, moi, il y a Berger, puis Comme le feu, qui m'ont vraiment touché, mais ça a pas fait la cote, finalement.
Ouais,
comme
non,
le feu, j'ai vraiment plus aimé ça que toi.
Oui, tout à fait, c'est correct. Mais moi, effectivement, cette année, j'ai aimé beaucoup de films québécois, mais il n'y en a aucun qui est venu me saisir. Pourtant, l'année passée, je pense qu'il y en avait même deux ou trois.
Ouais, mais il y avait Vampire Humaniste.
Il y avait Vampire Humaniste. Il y avait
ça,
Les Chambres Rouges aussi.
Oui.
Deux qui étaient venus me chercher. Donc,
que j'ai vu, les Américains semblent découvrir
ouais,
cette
ouais,
année.
Il vient de sortir, je pense, aux États. Fait que là, il est dans beaucoup de top.
Les Chambres Rouges, on parle.
De filmmaker, de Red Rooms qui y ont. Fait que bravo à Pascal Plante à ce moment-là.
Tout à fait. Fait que moi, pour 2025, l'exercice a été dur parce que, a priori, c'est pas une année qui semble m'exciter. Donc, j'espère que les découvertes seront me surprendre parce que, dans ce qui était annoncé, ben là, c'est sûr qu'en termes de cinéma québécois, on a l'information souvent deux mois avant.
Ça,
là, fait que c'est pas comme les Américains où ils planifient leur film deux, trois années d'avance.
On a menteuse et deux femmes en or,
c'est
là,
ça.
On
sait pas
vraiment
trop ce qui arrive.
Cette année,
même chose du côté cinéma français, fait que je me suis plus collé un peu sur les trucs américains d'annoncer. Fait que je vais y aller qu'on voit à la suite de l'autre. Puis,
ben, ça se peut qu'on se recoupe là aussi.
On nomme un film ou tu nommes tous tes films?
Comme tu veux.
Tu peux en nommer plusieurs.
Okay.
Bon,
ben, je vais y aller avec quelques-uns. J'en ai noté 5. Fait que j'ai essayé de faire l'exercice à 5 films. Puis je vais y aller par date, tiens. Fait que 18 avril, c'est Mickey 17 de Bong Joon-ho. Pourtant, je ne suis pas grand fan de Bong Joon-ho. Je n'avais pas capoté Parasite comme bien du monde, mais celui-là, je trouve intéressant la prémisse, un peu folle, une espèce de Groundhog Day dans l'espace de science-fiction.
Dans un contexte un peu plus amusant.
Moi, tout à fait.
Les travailleurs, comment dire,
fait que ça a l'air assez sauté. Fait que j'ai très curieux de voir ça. Le 27 juin, ce serait Formule 1, F1, de Joseph Kosinski. Pourtant, je ne suis pas un amateur
c'est ça, t'es pas dans
de
ceux
Formule 1.
Drive to Survive.
Non, vraiment pas. Mais par le réalisateur, il m'avait ébloui avec son Tron, autant
Top Gun Maverick,
puis l'autre film qu'il avait fait aussi de sanction avec Tom Cruise avant, j'ai oublié le titre.
Oblivion.
Matt Damon. Oblivion. Moi, je fais partie de ceux que j'avais bien aimé, que je trouve visuellement amène toujours quelque chose de nouveau. On parle d'un budget astronomique pour ce film-là, j'ai hâte de voir.
Oui, parce qu'il tournait sur des vrais circuits avant les courses, là, du genre les tests sont le samedi, puis eux, ils tournent l'après-midi.
C'est le film avec Brad Pitt.
Avec Brad Pitt, fait que moi, je pense plus pour l'expérience sensorielle auquel je m'attends vivre, mais on verra bien.
Peux-tu en nommer peut-être deux aussi, Nico?
Si on y va chronologiquement, je pense qu'il sort avant toutes les autres. Moi, j'ai hâte de voir The Monkey. Osgood Perkins qui nous a donné Long Legs.
Je me demandais si Long Legs serait dans ton top 10.
Il a failli, mais encore une fois, l'épreuve du temps fait. Puis souvent, je l'avais mis pendant longtemps dans mon top 5 horreur. Puis je regardais les commentaires des gens qui la regardaient, puis disaient c'est correct, mais c'est pas si. Je pense que d'être surfait dans la réputation lui a nuit, lui aussi.
Ouais,
mais
parce qu'à un moment donné, finalement, l'effet boule de neige devient trop gros, puis c'est le meilleur film de tous les temps.
C'est parce qu'on a eu à peu près 6 films cette année que c'était le meilleur film d'horreur de tous les temps. Calmez-vous. The Monkey, qui est adapté d'une nouvelle de Stephen King. Je suis un grand fan de Stephen King. Mais il a l'air de l'avoir fait à la Final Destination. Ça a l'air d'être plein de monde qui se retrouve avec le fameux singe, puis qui souffre incroyablement. Fait que je vais être curieux de voir ça. Puis ça arrive au mois de janvier.
Serait temps février, par exemple.
Février, ouais. OK. Ce serait temps qu'on commence à avoir des bons films en janvier-février. Traditionnellement, c'était un peu plus la dompe.
oui. C'est du cinéma international de qualité qui est plus aride des fois, ou de la dompe américaine. Oui.
28 Years Later, évidemment, est dans les films que je suis très curieux de voir.
J'ai peur d'avoir trop d'attentes.
J'ai peur que ça soit décevant, moi aussi, mais j'ai hâte de le voir.
Est-ce qu'on a vu que Aaron Taylor-Johnson est capable du meilleur comme du pire?
Ouais. S'il n'y a pas de veste en mouton, on va être correct. Puis, même si c'est du junk food, je suis d'accord, c'est du McDonald's de films d'action. Mais j'aime bien les John Wick, fait que j'ai hâte de voir Ballerina, parce qu'il y a quand même Ana de Armas, qui n'est pas désagréable. Ouais. Fait que j'avais ça, puis Mission Impossible.
Okay. Ouais, moi aussi, Mission Impossible. Moi, c'est ma franchise préférée.
Ben, il s'améliore presque à chaque film.
Puis là,
sauf peut-être le dernier, que j'ai trouvé moins bon que les autres.
Ben, c'est peut-être le contexte qu'il soit un two-parter, que ce soit juste la moitié d'un film, puis tout, c'est ça qui rend peut-être ça plus difficile. Mon premier, 17 janvier, Wolfman de Lee Whannell, film d'horreur. Curieux, très curieux de voir ça. J'ai pas d'énorme attente, mais le Invisible Man qu'il avait fait était intéressant, vraiment, twist contemporaine. Puis ça a l'air de se passer comme dans une seule nuit, là, mais c'est peut-être moi qui ai mal interprété la bande-annonce ou quoi que ce soit. On a parlé quand même au Québec, Deux femmes en or. Vraiment curieux de voir ce projet-là. Puis il faudrait que j'écoute l'original, le vieux, que je pense qu'il est vraiment plus coté comme un mauvais film, mais je serais bien curieux de voir ça, ou les caméos de l'époque. Puis peut-être, je ne me suis pas rendu vraiment plus loin que ça, mais j'ai réécouté les films de Marvel, je les écoute, mais je finis par les oublier. Tu sais, Thunderbolt, bon, ça a l'air drôle, mais je sais pas. Mais j'ai réécouté la bande-annonce, la dernière, du Captain America Brave New World, et je suis vraiment curieux parce qu'il la mise vraiment sur un thriller politique, du grain sale. On dirait les films d'Harrison Ford là, quand il devait sauver le président.
Quand tu faisais Jack Ryan.
C'est ça, ces affaires-là, fait que ça a l'air d'être ça. Mais est-ce que c'est juste une tricherie de bande-annonce qui mise vraiment là-dessus, puis que le film finalement va un peu ressembler à toutes les autres? J'ai pas d'énorme attente, mais je suis très curieux de voir le
Red
film,
Hulk te fait pas peur?
Je connais pas assez la mysticité, mais il cache vraiment pas là, dans la dernière bande-annonce. On voit Harrison Ford qui se cache, c'est lui. J'oublie son nom, président. Là.
Personne n'a nommé Superman.
J'allais le faire.
Ça sent bien. Tu vois, moi, Superman, je suis très neutre. J'ai vous parlé de Christopher Reeve et tout, je me souviens, mais moi, je suis juste trop jeune pour avoir écouté.
J'ai eu peur un peu.
Écoute, oui.
Vends-nous ta salade.
Ben, moi, je pense que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais ce qui me donne confiance, c'est James Gunn avec ses Gardiens de la Galaxie. Donc, il est capable d'amener ce côté-là funky à la mythologie de Superman avec son Rocket Raccoon. J'ai hâte de voir le traitement, mais
la série est très bonne. La série de comment il s'appelle, avec John Cena. Là.
Oui. Secret Agent. Non. En tout cas.
Oui.
Il est en bobette, là. Puis tout
c'est
ça.
C'est lui qui est derrière ça aussi.
Puis il avait fait un des meilleurs films de DC, Suicide Squad aussi.
Ben, c'est ça dont découle.
Il a fait le bon Suicide Squad.
Donc, oui, effectivement. très curieux. Puis ça date très révérentiel déjà dans la bande-annonce avec le clin d'œil au thème de John Williams, Malaguette électrique. Je donne sa chance. J'espère retomber en amour avec le personnage malheureusement que Zack Snyder m'avait fait laisser indifférent.
Peacemaker, parce que là, je sais que les gens écoutent et ils crient après nous autres.
Tout à fait. Merci, ouais, d'avoir. Fait que ça, vous pouvez arrêter de crier.
Ça s'en vient le 11 juillet.
Parce que pourtant, parler de Superman deux secondes, Henry Cavill était un très bon Moi, je trouvais qu'il était un bon casting.
Adoré Man of Steel.
Moi, je trouvais qu'il était un bon Superman, mais il était un mauvais Clark Kent.
Okay, et là, c'est le classique des films d'être le persona puis le super-héros.
Ben, je pense qu'il faut les deux. Il faut quand même un certain charme pour incarner Clark Kent.
Et une vulnérabilité qu'il n'y avait pas nécessairement à cause de sa chaîne.
Je trouve qu'on a, dénaturalisé le personnage de Superman, beaucoup trop. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire,
c'est ça, parce
mais
que finalement,
moi, j'ai
pas embarqué. Il fitait avec les colosses qu'ils ont créés, avec Ben Affleck, avec Aquaman, Jason Momoa, puis tout, il y avait toute la même shape, là, un peu.
Oui, c'est ça. Puis on a joué vraiment la carte. C'est un dieu qui essaie de trouver sa place parmi nous. Et on était dans cette approche-là, la Clark Kent, alors que c'est plus quelqu'un qui va être un humain et faire partie de nous, tu sais. Et je pense que le... Tu sais, faut dire, tu as parlé du documentaire Christopher, il a tellement marqué le rôle aussi.
Oui.
Fait que c'est dur d'arriver avec une proposition nouvelle.
C'était
aussi,
un rare casting parfait.
Ouais, vraiment, là. Et dans le ton du premier film qui était parfait. Fait que bref.
Je vais essayer de me mettre à jour d'ici la sortie de
Superman. Écoute au moins les deux premiers de l'époque. Mm-hmm. Tu sais, l'original Superman The Movie. Puis si tu as écouté le 2, écoute le Director Scott de Richard Donner, parce que lui, il avait été renvoyé pendant le tournage du deuxième, parce qu'il tournait un peu les deux simultanément. Il y a eu une chicane avec les producteurs, donc ils l'ont tassé, puis ils ont embauché un autre réalisateur qui est revenu retourner des scènes, tout ça. Mais il y a quelques années, ils ont refait son Director Scott, qui est quand même plus intéressant.
Ah, okay.
Fait que juste ce diptyque-là, ça vaut la peine. Après
puis
ça,
lui, de
reste,
début 2000, avec Kevin Spacey en méchant, on l'écoute
avec Brandon. J'ai trouvé ça... Oui, parce que c'était vraiment un film qui était révérencieux à ça. C'était une lettre d'amour de Kevin, Brian Singer, au film de Richard Donner. Et c'était bien fait, mais je pense que c'est arrivé un peu trop... peut-être trop tard... Pour que les gens embarquent. Puis je pense que les films de super-héros étaient rendus ailleurs.
Je me souviens même plus c'était qui, Superman.
C'était Brandon Root, qui était intéressant, honnêtement. Je trouve qu'il
réussissait. Pour
le casting
des deux,
il émulait bien quand même le Superman de Christopher Reeve, parce que c'est dans cette continuité-là, en fait. L'idée, c'est qu'il était parti loin, mais il était parti essayer de retrouver des survivants de Krypton. Puis fait qu'il revenait sur Terre, genre 10 ans plus tard. Fait que là, en tout cas, fait que bref, ça vaut quand même la peine. Mais.
Est-ce que tu partages l'amour
c'est très bon,
de
là, en fait.
Man of Steel de Nico? Ou toi, t'avais
déjà. Non, Man of Steel, j'avais été déçu, effectivement, par l'approche. Je comprenais ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouvais que ça collait mal au personnage de Superman.
Fait qu'on cherche un vrai reset. Là,
ouais, je pense que. Sinon, 4 juillet, ça a passé sous le radar, mais en fouillant un peu, j'ai vu que ça s'en venait. Il y a une nouvelle comédie musicale de Trey Parker puis Matt Stone.
Ça va être niché, ça.
Écoute, mais produit aussi avec Kendrick Lamar. Puis dans le fond, écoute, je vais lire le synopsis comme ça. Fait que ça tourne autour d'un jeune homme afro-américain qui est embauché dans un musée où il incarne un esclave là, dans des reproductions, tout ça. Puis il va se rendre compte finalement que les ancêtres de sa blonde, qui est blanche, était propriétaire de ses ancêtres à lui.
Oh, OK.
Fait que je pense qu'on va être... Déjà, ça donne le ton.
C'est les gars de South Park.
Ça va être dans le...
Et ça sort le 4 juillet.
4 juillet.
Évidemment, ouais.
Fait que, écoute, déjà là, Trey Parker, Matt Stone, je vais les suivre n'importe où. Team America, je pense que c'est une des... Dernière fois que j'avais autant ri au cinéma, j'ai adoré leur musical The Book of Mormon sur Broadway. Fait que ça, j'y vais haut la main. Puis le cinquième, c'est le nouveau Paul Thomas Anderson avec Leo DiCaprio.
Ah, ouais,
sort au mois d'août. Quand même.
De date de sortie.
Ouais, quand même. Puis un film à gros budget, là, plus d'une centaine de millions. Une espèce de satire politique sur l'administration de Nixon puis la guerre aux drogues et tout ça. Fait que, bien curieux de voir. Paul Thomas Anderson, en général, j'aime bien son cinéma, j'aime sa réalisation. Fait que fait partie des films curieux.
Avatar 3, décembre prochain?
Oui, décembre, j'ai pas d'attente.
Aucun. C'est ça, moi non plus. Mais je pensais, c'est quoi le gros film de Noël? Peut-être pas de Star Wars. Fait que...
C'est Avatar qui s'en
Avatar 3,
vient, effectivement.
Ça va jouer dans...
Plus niché, mais j'ai hâte de voir 5 septembre aussi.
Oui.
C'est pas la date, c'est le titre du film. Ouais. Ça arrive en
mi-janvier, à peu près aussi, je pense. Même date que Wolfman.
C'est sur la prise d'otage pendant les Jeux Olympiques de Munich. Mais du côté de
l'équipe télé, ABC Sports.
Qui a couvert. C'est ça.
Fait que oui, ça va rejoindre ton amour de All the President's Men.
Oui, tout très fait, thriller et tout. Là. Ouais, s'il arrive à avoir une vibe un peu à la Spotlight, là, c'était plus enquête Spotlight, mais c'est un film qui était le fun à écouter, que justement, il a gagné meilleur film. C'est vraiment moins bon parce que c'était... Puis je remarque aussi qu'on a omis, je sais pas si tu l'as vu toi, Nico, mais Conclave, c'était
quand même
très fun à écouter.
Mais il se retrouve dans plusieurs listes des meilleurs
films. Il est dans beaucoup de chance. Il y en a qui pensent qu'il pourrait remporter un peu de ce même type-là le score du meilleur film parce qu'il va être le numéro 2 ou le numéro 3 de tous les votants, puis ça fait que le cumul de
la
points.
La séparation des autres.
Ouais, c'est que dans le fond, tu rankes les 10 films, ça donne des points. Fait que si t'es plus souvent numéro 2 qu'un Substance, que du monde mette 1 mais d'autres mettent 10, ben là, je dis, on sait même pas encore ce qu'est les films en nomination.
Non,
mais mettons des gros films ou des affaires comme ça. Fait que c'est le genre de film qui pourrait. Sans trop de gêne.
Puis dans les mentions, comme... effectivement, moi, j'avais bien aimé. C'est peut-être la fin là, qui est un peu champ gauche.
Mais fait
un tu peux débarquer, mais dans l'ensemble, c'était très maîtrisé.
Parce qu'effectivement, Substance, c'est le genre de film qui, c'est sûr qu'il va être nominé, mais c'est pas le genre de film qui gagne.
Ouais. Demi Moore pourrait gagner, mais le film, effectivement, ça va être c'est trop choquant.
L'Académie n'aime pas les films
de genre. Pense aussi au film l'an dernier, le Poor Things, puis des choses comme ça, c'est trop choquant.
Trop pété.
Là, ouais. Fait que voilà, un mot de la fin, je sais pas.
Ben écoute, j'espère que là-dedans, peut-être qu'il y a des films que vous n'avez pas encore vus et qu'on vous a donné le goût de voir ou que
c'est. Il n'est jamais trop tard pour découvrir un film.
Ben non, tout à fait. Fait que tout ce qu'on vous souhaite.
All the President's Men.
Voilà, je vais y mettre.
Alors ben, on vous souhaite bon cinéma. J'espère que vous avez pris des notes. Puis on se retrouve, nous, en début d'année pour la reprise de nos épisodes hebdomadaires.
Ouais, la diète et les films de la semaine.